Le 20 janvier marque un nouveau tournant, le début du second mandat de Donald Trump en tant que président des États-Unis. Alors que cette nouvelle ère s'ouvre, les investisseurs canadiens doivent se préparer à naviguer dans un environnement marqué par des changements politiques et économiques. Dans notre commentaire cette semaine, on explore les implications potentielles de ce mandat pour les marchés financiers et on discute des ajustements stratégiques nécessaires pour maximiser vos rendements tout en limitant les risques. Bonne écoute. Dans les prochains jours, on va assister à un changement d'administration à la Maison-Blanche et évidemment, on va vivre une nouvelle réalité qu'on a déjà connue par le passé. C'est un nouveau président américain, celui à la personne de Donald Trump. Donc, mon thème, c'est anticiper l'incertain. Pourquoi je mentionne ça? Bien évidemment, on suit justement l'actualité et Trump a beaucoup d'intentions pour son nouveau mandat. Et on parle au Canada, puisqu'on va parler plus précisément de risques de tarifs douaniers. Puis là, les gens, des fois, nous communiquent avec nous et sont un peu inquiets. Puis c'est sûr que c'est imprévisible, parce qu'entre les paroles puis l'exécution, des fois, il y a un écart. Puis juste pour donner une idée à quel point, des fois, il peut y avoir un écart, on va juste reculer lors du premier mandat de Donald Trump. Il y a divers moments où il y a eu des déclarations de la part de Donald Trump ou des menaces. Puis finalement, au final, les choses n'ont pas été aussi drastiques. Donc, je donne quelques exemples au niveau du protectionnisme et ses relations commerciales. À son premier mandat, Trump menaçait même de quitter littéralement l'ALENA. Puis finalement, ça s'est terminé avec une négociation et la création d'un accord de l'USMCA qui finalement, ça a stabilisé les relations entre Canada, États-Unis puis Mexique. Même chose avec la Chine. Lorsqu'il y a eu des tarifs, on s'imaginait vraiment que la situation allait être drastique. Très néfaste. Oui, il y a eu des conséquences, mais c'était plus tempéré qu'imaginé, au point même que l'administration de Biden a conservé certains de ses tarifs. Un autre risque géopolitique qu'on avait observé lors du premier mandat, c'était justement les commentaires que Donald Trump avait envers Kim Jong-un et il mentionnait qu'il allait le rencontrer avec Fire and Fury. Finalement, il y a une rencontre qui a eu lieu et les relations étaient moins tendues entre les deux dirigeants. Finalement, il y a deux autres points qui sont venus à l'esprit dans cette analyse-là. On l'oublie peut-être, mais Trump avait critiqué l'OTAN en disant que c'était une organisation qui était obsolète et il avait remis en doute son engagement. Et aujourd'hui, la réalité, elle est différente. Puis finalement, l'administration de la Maison-Blanche, à l'époque de sous Trump, avait quitté l'entente de TPP, le Trans-Pacific Partnership, et aussi l'accord de Paris. Et finalement, Biden, dès son premier jour en mandat, bien, avait réintégré l'accord de Paris parce qu'il ne faut pas oublier que ce n'est pas des décisions qui sont nécessairement permanentes. Donc, pourquoi je donne ces exemples-là? Ce n'est pas pour faire des prévisions sur l'avenir. Comme je dis, sur un spectre où il y a des paroles et il n'y a pas d'exécution jusqu'à, il y aurait peut-être une taxe, un tarif douanier unilatéral de 25 %. Où on se situe? On ne le sait pas. Anticiper le pire, ce n'est pas la solution et s'attendre que rien ne va se passer non plus, ce n'est pas le cas. Donc, comment on se positionne en tant qu'investisseur avec la nouvelle ère de Trump qui nous attend? Et premièrement, moi, ce que je dirais aux gens, c'est qu'il faut accepter que ces commentaires-là géopolitiques ou des tensions potentielles commerciales, ça va amener un facteur de plus, un facteur de risque additionnel sur les marchés. Donc, plus de volatilité, peut-être c'est dans les cartes. Donc, pourquoi je parle de ça? Fait qu'il faut toujours se rappeler qu'à la base, notre répartition d'actifs, ce qui est alloué en bourse, ça doit être investi sur une période de plus de 10 ans. Et quand je parle de ça, c'est que ça fait que si on voit qu'il y a des replis de marché, on ne devrait pas être affecté financièrement. Déjà là, notre anxiété financière va être réduite si c'est le cas. Et en investissant de même, bien, on se rappelle que lorsqu'on investit, ce n'est pas simplement avec un horizon sur 2025, 2026, 2028, mais c'est un horizon beaucoup plus longue. Donc, on achète des entreprises de qualité ou on investit dans des géographies ou des secteurs qui sont prometteurs sur le long terme. Et comme on a vu dans le passé, exemple, je mentionnais avec l'accord de Paris, certaines décisions de président peuvent changer au fur et à mesure que les administrations changent. Il ne faut pas non plus perdre le cap et toujours être en mode réactif de l'actualité. L'autre point, c'est pour penser notre allocation canadienne. Qu'est-ce que je veux dire là? C'est que des fois, les investisseurs disent, écoute, j'ai un pourcentage investi au Canada. L'économie Canada, je la sens fragile. Il y a des menaces de tarifs. Pourquoi j'ai autant de pourcentage de mon portefeuille en dollars en société canadienne? Est-ce que je devrais repenser à ça? Je dis pas non, mais n'oubliez pas, il y a une différence, il y a des nuances à faire. Il y a des sociétés qui ont été incorporées au Canada. Le siège social est au Canada. Sont inscrites sur une bourse canadienne. Oui. Par contre, les opérations peuvent être basées principalement aux États-Unis. Donc, l'entreprise, pour visiter notre thèse, en disant, est-ce que l'entreprise a des employés américains, des places d'affaires aux États-Unis? Est-ce qu'elle a des manufactures aux États-Unis? Est-ce qu'elle travaille déjà avec des sous-contractants américains? Donc, ces sociétés-là, s'il y avait des tarifs, vont être impactées totalement différemment qu'une société, exemple, qui est basée au Canada, qui fabrique tout au Canada et là, son chiffre d'affaires est vraiment relié à l'exportation américaine. Dans ce temps-là, on peut revoir finalement avec cette réflexion-là et voir que notre portion canadienne, en fait, oui, est vraiment purement canadienne, est beaucoup plus inférieure à ce que notre allocation en actions canadiennes nous permet de conclure. Maintenant, quand on regarde notre portefeuille, il faut regarder les secteurs dans lesquels on est investi, entre autres au Canada, et se dire, bien, ça a un scénario où il n'y aura pas de tarifs ou des tarifs unilatérales de 25 %, est-ce que peut-être l'administration de la Maison-Blanche, cette nouvelle administration-là, va mettre des tarifs graduels comme il était proposé? Puis si oui, est-ce qu'il y a des secteurs qui seraient probablement les premiers ciblés là, dans la ligne de tir de Donald Trump, si on se base sur ses commentaires lors de son premier mandat et jusqu'à tout récemment? Dans cette situation-là, il faut peut-être repenser un peu à notre répartition, soit sectorielle ou dans certaines sociétés, parce qu'évidemment, ces sociétés-là vont quand même avoir une certaine épée d'Amoclès, tarif ou pas, parce qu'on ne saura pas dès le jour 1 s'il y aura des tarifs sur ce secteur-là. Puis l'autre côté, s'il y a une application de tarifs, ben oui, ces titres-là vont fléchir. Donc, moins de potentiel de hausse, plus de potentiel de baisse, peut-être, dans une mesure raisonnable, bien repenser notre allocation. Et à l'inverse, c'est la réflexion pour dire quel secteur géographique, quel type d'entreprise ou quel secteur d'activité va être favorisé puis faire la substitution. Donc, votre conseiller ou même, nous, dans notre cas, on a déjà été proactifs pour faire une certaine modification qui est quand même marginale pour déjà s'adapter peut-être à des risques pour éviter d'être dans des positions qui sont vulnérables. On ne voit pas nécessairement de potentiel de hausse étant donné les tensions qui existent. L'autre point, par contre, pour la portion boursière, il faut se rappeler là, qu'à la base, on devrait toujours avoir une diversification de 1, mais dans des secteurs qui sont prometteurs, qui suivent des grandes tendances, comme je parle souvent dans d'autres commentaires. Assurez-vous de ça, parce que comme je l'ai mentionné, une nouvelle ère sous Trump, c'est une ère qui est temporaire et notre horizon d'investissement va bien au-delà du prochain mandat de Donald Trump. Donc, malgré les soubresauts, il faut quand même garder nos thématiques. Puis bien souvent, ça ne se passe jamais de manière aussi pire qu'on l'a imaginé. Maintenant, comment notre portefeuille peut être robuste puis baisser notre cote de risque? Bien, assurez-vous d'investir dans des sociétés, si vous faites de la sélection de titres, que les bilans sont solides. Donc, s'ils sont désavantagés, elles peuvent passer mieux à travers la tempête. Puis finalement, si vous êtes assuré d'avoir une certaine orthodoxie dans votre sélection de titres, donc acheter des sociétés dans le secteur prometteur, des leaders d'industrie, mais à prix raisonnable par rapport à la moyenne historique, là encore, on réduit peut-être le risque de baisse dans un scénario un peu plus pessimiste. Finalement, au bout de la ligne, certains investisseurs, malgré toute l'éducation financière et la connaissance des faits, ils ont encore un inconfort. Et là, ça vous amène l'anxiété, des troubles de sommeil. Et là, ce que je dis aux gens, je dis bien, peut-être c'est le temps quand même de penser à votre répartition d'actifs. Ce n'est pas une recommandation, mais si à un certain point, vous venez totalement inconfortable, bien, c'est peut-être le temps en amont de revoir votre répartition d'actifs et de redevenir un peu plus défensif. Peut-être c'est simplement de rebalancer le portefeuille parce que les deux dernières années ont été très payantes en bourse et là, vos portefeuilles sont un peu plus agressifs qu'il y a 2 ans à cause justement de ce déséquilibre-là. Donc, c'est le temps de pousser cette réflexion-là. Finalement, on va rester agile. Comme j'ai dit, les scénarios vont varier. Donc, en temps réel, on va suivre les décisions qui sont liées aux politiques commerciales pour justement toujours s'adapter. Donc, l'idée, c'est que je voulais ramener, c'est qu'il faut rester pragmatique. Il ne faut pas tomber dans les scénarios à des pôles extrêmes. Assurez-vous que votre portefeuille ait une répartition d'actifs qui est en fonction de votre tolérance au risque, vos besoins de retraite. Assurez-vous qu'est-ce qui est investi en bourse devrait être investi pour le long terme. Bonne répartition d'actifs dans des secteurs prometteurs avec une approche qui est prudente à l'intérieur de votre sélection de titres ou de FNB. Et moi, je pense que vous serez bien positionné pour les prochaines années parce que ça ne changera pas qu'à long terme. Les marchés boursiers restent la meilleure catégorie d'actifs où investir dans le monde du placement. Merci.